sommes vraiment dans la joie d'avoir avec nous ce matin le professeur Henri Blocher de la faculté de théologie de Beau-sur-Seine, que nous connaissons très bien, qui est tout près de nous. Monsieur Blocher est doyen de la faculté de théologie avec beaucoup de responsabilités et aussi professeur de théologie systématique. C'est pourquoi nous avons pensé que ce serait bien ce matin que notre culte et le message soit centré sur Christ. De toute façon, nous sommes centrés sur Christ, mais d'une façon exceptionnelle, spéciale ce matin, nous voulons surtout voir la personne de Jésus. Nous allons donc commencer avec un chant qui présente Jésus, notre l'agneau, sur son trône.
Nous allons commencer avec le cantique numéro 67, à l'agneau sur son trône. Marc va nous diriger dans la prière pour mettre cette culte entre les mains du Seigneur et pour que notre Seigneur soit celui qui soit glorifié.
Oui Seigneur, nous te remercions pour ta protection et ton amour pour nous cette semaine. Nous te remercions aussi pour la joie qu'il y a ce matin, l'assurance que nous avons de ta présence au milieu de nous. Et ce que nous te demandons, c'est de bénir ce culte, de bénir notre frère qui parlera de ta part. Et Seigneur, que chacun d'entre nous reparte avec quelque chose de toi aujourd'hui, une réponse à une question, un encouragement. Merci d'avance. Amen.
Vous pouvez vous asseoir et chercher Jean chapitre 1 pour notre lecture. Jean chapitre 1.
Nous prenons donc le prologue de l'évangile de Jean, les 14 premiers versets, qui illustrent la nature de Jésus, homme Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Béni soit la parole de Dieu.
Nous sommes venus pour être ensemble. Nous sommes venus pour s'encourager mutuellement, mais nous sommes venus surtout pour adorer, pour louer, pour exalter notre Seigneur. Nous allons chanter ensemble plusieurs chants qui parlent du Seigneur lui-même, son humanité, sa divinité, sa gloire. Et le premier s'appelle Emmanuel, ce n'est pas dans votre recueil de cantiques, vous le connaissez très bien. C'est Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Avec nous, Dieu. Emmanuel, avec nous, Dieu. Donc, nous chantons Emmanuel, Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Et que ce chant puisse nous préparer pour adorer et exalter notre Seigneur. Un Emmanuel méprisé, abandonné, mais pour nous qui croyons, le plus bon nom, 87, Jésus, c'est le plus bon nom, 87.
Thank you.
et 86, il est Seigneur. Seigneur dans ma vie, Seigneur dans votre vie, Seigneur de tout. 86. Parce qu'il est Seigneur, nous l'adorons. Alors lèvons-nous pour chanter, nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur. 84. 84. Jésus, nous t'adorons. Surtout, il est souverain, il est glorieux, et nous adorons sa majesté. 82, majesté, pour terminer nos chants de louange, 82, majesté. Puis de lui dire que nous l'adorons, que nous l'aimons et nous voulons l'exalter. Que plusieurs puissent nous diriger dans des moments de louange, d'adoration. Prions Dieu. Oui Seigneur, que tu trouves dans nos cœurs, dans mon cœur, une véritable adoration, louange, un esprit, en vérité. Amen.
Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce car tu es amour. Je te remercie, mon Seigneur, parce que tu as beaucoup fait pour moi, Seigneur. Ce matin, tu nous as donné la force et le courage de venir ici, tous avec des frères et sœurs, se réunir, Seigneur, à ton nom. Et voilà, aujourd'hui, Seigneur, ce matin, je rends grâce à toi. Gloire à toi, Seigneur, je te remercie. Amen.
Amen. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ce qui adore.
Oui, Père, nous voulons te célébrer parce que tu es notre roi et parce que tu es présent parmi nous. Oh, quelle joie nous avons de pouvoir te contempler, de pouvoir t'élever ce matin, de pouvoir te célébrer, de pouvoir acclamer ton grand nom. Amen.
Seigneur, je te loue parce que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, parce que tu es près de ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Seigneur, que nous puissions te louer ce matin pour ce que tu es, pour ton adorable personne et aussi pour ta majesté.
Oui, Seigneur, que tu sois béni parce que tu es un Dieu qui se révèle à chacun d'entre nous. Tu es un Dieu qui nous parle, un Dieu qui est non seulement a vécu, qui est mort et qui est ressuscité et qui vit éternellement, mais un Dieu qui vient faire sa demeure en nous. Merci Seigneur, parce que tu viens habiter par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes ta parole. Ta parole est la vérité, et ta parole nous conduit près de toi, Seigneur. Ô combien je te suis reconnaissant pour ta parole qui a fait son chemin dans mon cœur. Loué sois-tu, Seigneur, et ce matin nous voulons t'adorer tous ensemble dans un même cœur et dans un même esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur, tu es mon sauveur, mon sauveur. Merci.
Nous demandons tes bonnes chances pour notre l'amour infini, pour la joie et la paix que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Oui Seigneur, ce matin je dois ouvrir ma bouche, afin Seigneur de te louer, de te glorifier. Tu veux Seigneur ouvrir mon cœur, afin, Seigneur, que tu le remplisses encore de ta joie, de ta paix. Seigneur, je veux t'apporter un culte qui t'est dû, un culte d'adoration, en esprit, en vérité, parce que toi seul, tu es esprit. Et Seigneur, je veux aujourd'hui, Seigneur, que nous tous ici, que personne, Seigneur, ne puisse sortir de ces lieux sans avoir reçu, Seigneur, ton esprit, sans avoir reçu, Seigneur, ce que tu as nous enseigné, sans avoir reçu, Seigneur, ce que tu as nous apprendre, Seigneur. Oh, je te bénis parce qu'aujourd'hui encore, tu agis dans nos cœurs. Tu es au milieu de ton peuple ce matin. Oh, mon Dieu, mon Père, je te glorifie. Je te rends grâce parce que, Seigneur, tu as encore à nous apprendre beaucoup. Que ta parole, Seigneur, soit proclamée. Que ton esprit, Seigneur, nous vivifie parce que tu es esprit. Sanctifie-nous par ta parole parce que ta parole est la vérité. Fais du bien dans nos cœurs ce matin et réjouissons-nous parce que l'Éternel est au milieu de nous. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen.
Gloire à ton nom, Jésus.
Seigneur, il n'y a qu'une chose dans nos cœurs ce matin, c'est d'entendre ta voix et t'exalter, parce que tu es notre Dieu, trois fois saint, trois fois merveilleux, Père, Fils, Esprit, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Jésus est né à Bethléem. Il a vécu en tant qu'enfant, jeune et adulte, et puis il est mort sur la croix. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Il est ressuscité, et nous avons chanté « À toi la gloire », c'est numéro 1 dans notre recueil, avant le message. « À toi la gloire, au ressuscité ».
Thank you.
Bénédiction. On va donner la parole à notre orateur, Henri Bochet. C'est une grande joie de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Frères et sœurs, toute la joie est pour moi. Je me réjouis de participer à votre culte et de vous apporter maintenant une parole de la part du Seigneur. Je voudrais aussi vous saluer de la part de la faculté de théologie évangélique, que vous soutenez sous les diverses formes nécessaires. Les liens sont nombreux entre votre Église et notre institution. Je mentionnerai ce que vous ne savez peut-être pas, à savoir que votre pasteur nous apportait la parole de Dieu lors d'un culte à la faculté, il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. Nous avons été bénis par son moyen. Et il revenait parmi nous après y avoir fait des études. Je ne sais pas si tout le monde sait que M. Vacco a franchi la première étape des études de doctorat en théologie dans notre faculté il y a quelques années. Il a fait son diplôme d'études approfondies. Vous voyez que les liens entre notre faculté et votre Église sont importants, sont précieux. Je vous invite maintenant, avant que nous méditions ensemble sur le sujet qui nous est proposé, Jésus, Jésus-Christ, Dieu et homme, est-ce absurde ? Je vous invite à écouter encore la lecture de la parole de Dieu. Nous lirons plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Celui qui, tout à l'heure déjà, a été lu au début de l'Évangile selon saint Jean, est tout à fait important pour notre sujet. Je vous invite maintenant à suivre la lecture dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10 et au verset 17. C'est l'épisode qu'on appelle souvent l'épisode du jeune homme riche, Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Puis nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, un passage du chapitre 14, chapitre 14e de l'Évangile selon saint Jean, à partir du premier verset. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et puis, nous lisons encore dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, épître de saint Paul aux Colossiens, chapitre 2, les versets 6 à 10.
Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Jusqu'ici, notre lecture. Jésus, vrai Dieu de vrai Dieu, et pourtant homme comme nous, un seul Christ, mais en deux natures, consubstantiel, c'est-à-dire de la même nature, un, consubstantiel au Père, selon la divinité, consubstantiel à nous, selon l'humanité, semblable à nous, en tout, hormis le péché, deux natures, unies, sans confusion et sans transformation, et sans division, ni séparation. C'est de cette manière que nos pères en la foi, il y a bien longtemps, au 4e, au 5e siècle de l'histoire de l'Église, de notre ère, ont confessé la vérité que contient la Bible, la foi chrétienne. Je viens de reprendre des expressions que l'on trouve dans les symboles confessions de foi issus des conciles de Nicée au 4e siècle, de Chalcédoine au milieu du 5e, après bien des luttes qui furent douloureuses. Ceux qui, alors, se voulaient les disciples de Jésus-Christ, ont reconnu qu'il fallait le dire pour rester fidèles à l'Écriture sainte, Dieu et homme, à la fois. Mais pour beaucoup aujourd'hui, ce n'est plus que le vestige d'une mentalité mythologique, dépassée, périmée. Il n'y a plus que des attardés pour s'y intéresser encore. C'est absurde ! Absurde, disent-ils. Comment pourrait-on penser qu'un même être puisse être à la fois créateur et créature ? Comment peut-on imaginer qu'il soit fini ? Les humains sont des êtres limités, finis, et infinis, comme Dieu est infini. Comment peut-on croire qu'il soit tout-puissant ? Dieu est tout-puissant, ou alors il n'est pas vraiment Dieu. Et puis limité, qu'il soit sujet à la fatigue, obligé de s'asseoir sur la margelle d'un puits parce qu'il a marché et qu'il sent les kilomètres dans les jambes. Comment imaginer qu'il soit à la fois tout puissant et faible? Comment imaginer qu'il soit omniscient, qu'il sache tout et de toujours, et puis qu'il soit obligé d'apprendre, qu'il soit comme les autres humains, appelé à s'informer, qu'il puisse grandir en connaissance, en sagesse? Non, c'est vraiment complètement absurde. On ne peut pas maintenir qu'il ait été à la fois Dieu et homme. Voilà ce que pensent beaucoup de gens autour de nous et ce que nous sommes peut-être tentés de penser nous aussi. La voix qui s'élève dans le monde d'aujourd'hui, c'est une voix qui naît très naturellement dans notre propre cœur. Il nous faut examiner cette question. Elle est percutante, nous n'avons pas à l'esquiver, à l'éluder, à nous réfugier dans une foi qui chasserait les problèmes et les remiserait au placard. N'oserait pas y penser, non. Notre foi doit être une foi d'adulte, une foi courageuse, et il nous faut affronter la difficulté de la question. Dieu et homme, est-ce absurde ? D'autres questions, cependant, ont priorité sur celle-ci, et je vais les traiter d'abord. Avant même de nous demander si la chose est absurde, il faut nous demander si elle est bien biblique, si elle est bien révélée dans l'Écriture. J'ai dit tout à l'heure que nos pères dans la foi, les chrétiens des premiers siècles, ont abouti à cette conclusion. Mais nous ne pouvons pas simplement nous reposer sur leur travail. Il nous faut assumer nos responsabilités et donc à nous aussi de discerner si vraiment, vraiment la Bible affirme que Jésus était à la fois Dieu et homme, est à la fois Dieu et homme. Est-ce vraiment biblique? Certains en ont douté et il nous faut considérer ce que disent les textes. Nous n'allons bien sûr pas le faire en détail parce que le temps manquerait pour cela. Vous avez heureusement un temps assez large pour l'enseignement de la parole de Dieu lors de votre culte, mais enfin il n'est pas illimité. Et donc je vais devoir me contenter de quelques preuves majeures. En effet, je suis persuadé, pour moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute, que la Bible nous enseigne que Jésus était à la fois Dieu et homme. Qu'il ait été homme aujourd'hui, peu de gens le contestent. Ce serait vraiment une opinion assez bizarre aux yeux des gens d'aujourd'hui que la contestation qu'il ait été vraiment homme. Autrefois, il y a eu des gens pour ne voir en lui qu'une sorte de fantôme d'humanité. Son humanité n'était plus qu'une espèce de vêtement tout à fait superficiel et inessentiel pour sa divinité. Mais aujourd'hui, peu de gens, très très peu, adoptent ce genre de pensée. La Bible nous affirme de manière tout à fait nette qu'il était homme, vraiment homme, semblable à nous en tout, à part le péché. Cette formule que Concile de Chalcédoine a reprise, elle est biblique elle-même. Il est appelé homme dans le texte de la première épître à Timothée, au chapitre 2 par exemple. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est vraiment toute l'humanité qu'il a connue. Il n'a pas triché. J'ai évoqué il y a quelques instants l'idée de la croissance. Oui, il appartient aux hommes de naître tout petit et sans grand savoir, apparemment, et puis de grandir physiquement, de grandir intellectuellement et dans la connaissance même des choses de Dieu, il y a un progrès. Ça fait partie des lois de la vie humaine. Jésus y a été soumis. L'évangile selon saint Luc nous dit, dans ses premiers chapitres, qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce même, devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, Jésus a vraiment joué le jeu de cette vie humaine avec la croissance. Il a été tenté comme nous, en toute chose. Il a éprouvé la morsure de la séduction du tentateur. Il y a résisté parfaitement, alors qu'hélas, nous succombons si aisément et avec de mauvaises complaisances. Mais Jésus a été tenté comme nous, en toute chose. Il s'est montré vraiment humain. Jésus a eu des sympathies personnelles. Il nous est dit que devant ce jeune homme qui était angoissé par la question de la vie éternelle, que dois-je faire? Et tous ces commandements, j'ai obéi et pourtant je sens bien que je n'ai pas l'assurance de la vie éternelle. Il nous est dit que Jésus l'a regardé et qu'il l'aima. Jésus l'aima. Il aime tous les êtres humains. Et là, c'est dit spécialement, cela veut dire qu'il y a eu en plus comme un mouvement de sympathie, comme parfois nous sentons naître dans notre cœur, un mouvement particulier, quelqu'un qui nous touche, avec qui nous avons des affinités. Jésus a connu ces éléments d'une vie humaine authentique. Jésus a souffert, comme souffrent les hommes. Il avait une chair sensible comme la nôtre, ça fait mal. Jésus a souffert dans sa chair et dans son âme. Jésus est mort. Jésus est mort. Or, c'est là une bien grande preuve d'humanité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, dit l'Épître aux Hébreux. Jésus est mort, prouvant qu'il était vraiment homme. Mais la force de cette affirmation dans l'Écriture n'empêche pas que l'Écriture soit aussi nette pour dire qu'il n'était pas seulement homme, mais qu'il était vraiment Dieu. Nous l'avons lu dans le début de l'Évangile selon saint Jean. C'est lui qui est appelé la parole. La parole qui s'est faite chair, c'est-à-dire qui est devenue homme. C'est lui dont il est dit qu'il était au commencement, au principe, avant toute création, avec Dieu, et qu'il était Dieu. Et ce n'est pas un passage isolé qu'on pourrait essayer de comprendre autrement. Thomas, quand il le voit ressuscité, s'écrie, l'ayant bien reconnu, oui, à la marque des clous de la crucifixion, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et les apôtres, dans leur témoignage, n'ont pas cessé de dire qu'il était Dieu et fils de Dieu, dans un sens qui n'est pas seulement celui des hommes pieux qu'on peut appeler enfant de Dieu, fils de Dieu. Non, il est dit qu'il est Dieu béni éternellement, au-dessus de tout, au chapitre 9 de l'Épître aux Romains, au verset 5. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à son compagnon de travail, Tite, c'était un homme qui avait partagé ses luttes, ses travaux, et qui maintenant avait des responsabilités, en particulier dans l'île de Crète, et à qui l'apôtre Paul écrit. L'apôtre Paul lui écrit, au chapitre 2 de son livre, que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre de manière pieuse, dans le siècle présent, d'une manière sensée, en attendant, verset 13, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Là, on ne peut pas séparer, la grammaire grecque l'interdit, entre le grand Dieu d'un côté et puis notre Seigneur ou Sauveur Jésus-Christ de l'autre. Donc c'est notre grand Dieu et Sauveur, d'après les règles qui régissent l'expression grecque. Et d'ailleurs, c'est bien de lui que le Nouveau Testament laisse attendre l'avènement glorieux, la manifestation. C'est lui qui va se manifester à la fin du temps, et donc c'est bien lui qui est appelé notre grand Dieu dans ce passage. Non pas un petit Dieu, avec une minuscule peut-être, comme certains ont parfois imaginé, mais le grand Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et ce n'est pas Paul seulement, c'est dans ses lettres aussi, l'apôtre Jean, à la fin de son épître, de sa première épître, sa grande épître, saint Jean à nouveau dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Par Jésus-Christ, nous connaissons le Père, qui est le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable et dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. La dernière partie de ce verset fait un pas de plus que ce qui est dit juste avant. Non seulement Jésus-Christ est celui par qui nous connaissons le Dieu véritable, son Père, mais il est lui-même le Dieu véritable. Et il est la vie éternelle, comme toute l'Épître le dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. C'est avoir le Christ en soi, dans sa vie, qui donne la vie éternelle. Donc c'est bien de lui qu'il est question, là encore, c'est celui-ci, dit-il, littéralement, c'est le démonstratif qui se rapporte à ce qui précède immédiatement, qui est employé dans l'original, le Fils Jésus-Christ. Le Fils Jésus-Christ n'est pas seulement le chemin pour conduire au Père, je suis le chemin, il ne vient au Père que par moi, mais il est un avec le Père, il est Dieu avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un, celui qui m'a vu a vu le Père. Croire que parce qu'il est le chemin et qu'il fait connaître Dieu, alors il n'est pas Dieu lui-même, mais c'est tombé dans la sottise de Philippe, qui lui dit, montre-nous le Père et ça nous suffit. Mais Jésus s'afflige et dit, mais tu es depuis si longtemps avec moi et tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est une unité parfaite. Jésus-Christ est Dieu. Au chapitre 10 et au verset 33, nous trouvons dans l'Évangile selon saint Jean cette parole, le Père et moi, nous sommes un. Et qu'il ne s'agisse pas simplement d'un accord, des volontés, mais qu'il s'agisse d'une unité d'être. Les Juifs qui entouraient Jésus à ce moment-là l'avaient bien compris. car pour eux, ça a été un blasphème. Mais cet homme se fait Dieu, c'est intolérable. Ils ont pris des pierres pour commencer à le lapider. Et Jésus ne leur a pas dit, non, vous vous trompez, ça ne veut pas du tout dire ça, je ne veux pas du tout dire ça. Non, Jésus leur a montré que lorsqu'il l'accusait de blasphème, il se mettait en opposition avec l'Ancien Testament, qu'il reconnaissait comme la parole de Dieu, avec leur Torah même. Mais il a bien confirmé par là même que lorsqu'il affirmait « Le Père et moi, nous sommes un », il se proclamait lui-même Dieu. Alors, il y a certains passages qui semblent faire difficulté à ce propos. Et j'en ai lu un pour que, précisément, j'ai l'occasion de vous l'expliquer. Je crois que tous ces passages se résolvent aisément. Mais lorsque le jeune homme riche donc s'adresse à Jésus en lui disant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus l'arrête. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Alors il y a des gens qui se disent, voilà, Jésus là, il dit clairement qu'il n'est pas Dieu. Il en quelque sorte décline l'honneur d'être appelé bon par le jeune homme en disant que Dieu seul est bon, donc il ne faut pas l'appeler bon. Voilà comment certaines personnes comprennent, et du coup, elles essaient de dire, mais au fond, Jésus, en tout cas lui-même, ne se croyait pas Dieu en personne. Mais ce n'est pas du tout le sens qu'il soit nécessaire d'attribuer à ces paroles de Jésus. Jésus ne dit pas, vous le remarquez bien, « Je ne suis pas bon ». Il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est une question qu'il pose pour faire réfléchir davantage le jeune homme riche. Si vraiment Jésus ne s'était pas considéré comme bon, ce serait quand même très fort qu'en réponse à la question du jeune homme, que dois-je faire, Jésus lui dise, bon, il y a tous les commandements de Dieu, tu connais. Eh bien, moi j'ajoute encore ça. Vends tout et bien. Ce qui est suprême dans la prescription de Jésus, c'est, et toi, suis-moi, suis-moi. Si vraiment Jésus avait voulu dire, oh, je ne mérite pas d'être appelé bon parce que je ne suis pas Dieu, vraiment, ce serait un peu bizarre que Jésus ait conclu sa réponse au jeune homme en lui disant que ce qui lui manquait à lui qui avait considéré tous les commandements de Dieu, c'était cette chose-là de le suivre. En fait, je crois qu'on comprend très bien quelle a été la pédagogie de Jésus lorsqu'il a posé sa question. Et on le comprend d'ailleurs quand on compare, c'est toujours une chose utile à faire, la forme du récit avec l'autre résumé que nous en donne l'évangile de Matthieu, selon saint Matthieu. Si vous prenez le texte dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est chaque fois bien sûr un résumé des paroles qui nous est donné. On ne lit pas « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» mais « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon ?» Il n'y a de bon que Dieu seul. Ce que Jésus avait remarqué, c'est que le jeune homme qui était plein de bonnes intentions, c'était un très brave garçon, que ce jeune homme, il employait le mot « bon » avec un petit peu trop de facilité. « Bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter ?» Et Jésus lui dit « Attention, c'est sérieux. Le bien, c'est pas quelque chose qui puisse se cultiver en quelque sorte comme dans un jardinet en marge de la vraie vie, des affaires importantes. Le bien, au bout du compte, c'est la volonté de Dieu. Dieu seul est bon dans un sens absolu. Et si on parle du bien et de la vie éternelle, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. C'est un choix qui a un caractère radical qu'il faut faire, absolu. Ce qui correspondra à « Vends tout et bien et suis-moi ». Le problème du jeune homme riche, avec toutes ses bonnes intentions, c'est qu'il n'était pas prêt à la décision jusqu'au bout. Il était attaché à ses biens, il voulait faire de bonnes œuvres, mais quand même pas se dépouiller entièrement, etc. Et Jésus donc met le doigt aussitôt sur le point malade de l'âme de ce jeune homme. Il n'a pas du bien et de ce qui est bon la vision radicale qu'il faut, n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. Et Jésus donc lui rappelle que chacun vit devant Dieu et que s'il s'interroge sur le bon, il s'agit d'être prêt à aller jusqu'à suivre Jésus. Donc, vous le voyez, c'est un exemple, je pourrais en prendre d'autres bien sûr, mais tous les textes que l'on a voulu citer parfois pour dire que Jésus ne s'était pas affirmé Dieu, en fait s'expliquent très bien, comme je viens de donner un exemple. Et on ne peut pas douter que le Nouveau Testament affirme que Jésus était Dieu. Le titre de Seigneur d'ailleurs qu'il a beaucoup employé et que les disciples ont employé le plus souvent, au moins dans un grand nombre de cas, implique la divinité même. C'était le mot que l'on employait à la place de l'Éternel. Vous savez que dans nos Bibles protestantes, lorsque le nom sacré du Dieu unique de l'Ancien Testament est utilisé, le nom qui sans doute se prononçait Yahweh, que dans les Bibles protestantes, il y a à la place l'Éternel. Mais dans d'autres Bibles, dans la traduction œcuménique de la Bible par exemple, il y a le Seigneur. Et ça correspond là à l'usage des Juifs dans les synagogues. De peur de profaner ce nom suprême, chaque fois qu'il y avait Yahweh, il lisait le Seigneur à la place. Le Seigneur. Et lorsqu'ils ont traduit en langue grecque l'Ancien Testament, chaque fois ils ont mis le Seigneur en grec. Or, c'est ce titre, le Seigneur, qui a été employé pour Jésus. Et qui a été employé pour lui, même dans des passages de l'Ancien Testament qui parlent de Yahweh, du Dieu unique. Ces passages ont été appliqués à Jésus comme le Seigneur. C'est quelque chose de formidable. À la fin de l'épître, disons à la fin du grand passage que nous évoquions avec ceux qui étaient là dans l'heure précédente, au chapitre 2 de l'épître aux Philippiens, il nous est dit que Jésus-Christ, ayant passé par la souffrance, s'étant rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, a été souverainement élevé, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Remarquez bien, peut-être que celui-là. Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc c'est le nom au-dessus de tout nom. Et cette expression même, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse, est prise d'Ésaïe 45. D'un passage prophétique de l'Ancien Testament, où le nom qui est prononcé par toutes les lèvres et celui devant qui tout genou fléchit, c'est Yahvé, c'est l'Éternel. Vous pouvez voir à la fin du chapitre 45. Donc, ce passage de l'Écriture utilise un verset de l'Ancien Testament où il est question de l'Éternel et l'applique, mais comme une chose qui va de soi, c'est la certitude de la foi chrétienne, à Jésus. Jésus est le Seigneur même. C'est l'affirmation qui a valu, en fait, à Jésus d'être crucifié. De cela, il faut bien se rendre compte. Les Juifs, et je dis tout à l'heure, les chefs du peuple à l'époque, je ne parle pas forcément de tous les individus dans la population, il y en a beaucoup qui ont reconnu Jésus aussi, mais les chefs du judaïsme de l'époque ne se sont pas contentés de prendre des pierres pour menacer de le lapider au chapitre 10. Mais, quelque temps après, ils ont pris Jésus, l'ont fait comparaître devant leur cour suprême, le Sanhédrin. Et pourquoi a-t-il été condamné à mort? Non pas pour des délits contre les lois ordinaires, non pas parce qu'il se serait proclamé le Messie. Ce n'est pas parce que Jésus s'est dit le Messie qu'il a été condamné. Aux yeux de ces docteurs du judaïsme, le fait qu'il se soit dit le Messie, c'était une erreur. Il se faisait illusion, mais ce n'était pas un crime, ce n'était pas un blasphème. Non, c'est parce qu'il s'est présenté comme un Messie divin, fils de Dieu dans le sens fort. Au chapitre 22 de l'Évangile selon Saint Luc, au verset 70 et suivant, nous voyons que c'est quand Jésus, ayant cité l'Ancien Testament d'ailleurs pour montrer que c'était déjà annoncé, se présente comme un Messie céleste et divin, et qu'on lui dit « Mais alors, tu es le Fils de Dieu ?» et qu'il répond « Oui, tu l'as dit. » Qu'à ce moment-là, ils éclatent d'indignation, ils déchirent leurs vêtements, disent « Qu'avons-nous besoin de témoignages ?» C'est un blasphème. C'est à ce moment-là qu'il le condamne. Il a été condamné pour s'être dit Dieu, un avec le Père, dans la divinité. Donc, impossible d'en douter un seul instant. l'Écriture nous apprend tout à fait formellement que Jésus était à la fois homme et Dieu. Deuxième question, est-ce vrai? Là encore, avant de se demander si c'est absurde, il faudrait peut-être savoir si c'est vrai. Alors je vais être encore plus sélectif que sur le premier point à ce propos, parce que du fait que l'Écriture nous atteste, et tout au long, et ces divers témoins, que Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu, on peut dire que la preuve de la vérité de cette union des deux natures en lui, c'est la preuve de la vérité de toute l'Écriture. Alors il faudrait ajouter, tous les signes, tous les témoignages, toutes les prophéties accomplies. Blaise Pascal disait la plus grande des preuves de Jésus-Christ, c'est les prophéties. C'est extraordinaire, il avait appris l'hébreu exprès pour pouvoir étudier cela. L'accomplissement des prophéties. Les Juifs ont gardé des prophéties dont ils ne voient pas qu'elles s'accomplissent en Jésus-Christ. Et nous sommes donc en mesure de vérifier, oui, elles sont accomplies. Il y a le témoignage à la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui ont essayé de mettre en doute la solidité de ce témoignage de ceux qui l'ont vu vivant après qu'il est mort, qu'il a été enterré, cette solidité, ils n'ont pas pu l'entamer. Et il y a d'ailleurs des gens qui ont commencé incroyants, Frank Morrison avait commencé à écrire un livre contre la foi chrétienne, et puis il a examiné les témoignages de la résurrection, et il a été convaincu, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas les traiter par-dessus la jambe, que c'était du solide. Oui, le christianisme a assez de titres à notre foi pour que nous puissions affirmer que cette révélation centrale dans toute la Bible, que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, cela tient. C'est la vérité. Mais alors, est-ce absurde? Dieu et homme, est-ce absurde? Certains l'ont dit parmi ceux-mêmes qui le croyaient. On cite souvent Tertullien, un père de l'Église. On résume un peu, il n'a pas dit les mots exactement comme ça, mais je crois parce que c'est absurde. Et vous avez un grand penseur du 19e siècle, un Danois, qui était luthérien, qui a eu une idée de la foi assez proche de cela. Je crois parce que c'est absurde. Si c'était finalement une de ces opinions qui ont pour elle les raisonnements des hommes, finalement, cela se montrerait bien une simple opinion humaine. L'absurdité même de cette vérité, pourtant attestée par les prophéties et par la résurrection, me montre que c'est Dieu lui-même qui me parle, en effet. Donc c'est absurde, mais parce que c'est absurde, que ça chamboule complètement ma vision des choses, je le crois. Voilà ce que veut dire Tertullien. Et moi j'ai beaucoup de sympathie, je l'avoue, pour une telle façon de penser. Je crois que si je devais dire c'est absurde, alors j'emboîterais le pas à Tertullien, à Kierkegaard, et je dirais je crois parce que c'est absurde. Oui, oui. Seulement je remarque que la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas que Dieu et homme ce soit absurde. Nulle part, la vérité de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ est présentée comme une contradiction qu'il faudrait quand même croire, mais qui serait complètement impénétrable par notre intelligence. Non, lorsqu'il est question de l'opposition à la sagesse, c'est à la sagesse humaine, dévoyée. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre, où Paul dit que la prédication qui correspond à la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes, mais il ne voit pas que c'est une folie pour ceux qui périssent, pour la sagesse selon ce siècle, qui est rendue myope et astigmate par ses présupposés. Mais, Paul ajoute ensuite, cependant c'est une sagesse dont nous parlons parmi les chrétiens adultes au second chapitre. Et il n'y a donc pas d'affirmation selon laquelle la vérité que nous avons à croire serait opposée comme telle à l'intelligence. C'est à une intelligence selon la tradition des hommes et les principes du monde, pécheurs, que ces choses paraissent inacceptables. En fait, je remarquerai que la raison, elle a avalé beaucoup de couleuvres au cours des âges. Que la raison qui se targue si souvent de décréter ce qui est absurde ou ce qui peut être admis, c'est une fonction qui n'est pas si sûre dans ses choix et qui a été obligée de réviser ses positions plus d'une fois dans l'histoire. Elle a avalé bien des couleuvres, et je dirais des vipères. Et puis même si on passe à côté de toutes les folies que la raison humaine a intégrées dans ses philosophies diverses, souvent mortifères, je dirais que même dans les sciences, et le progrès des sciences les plus récentes en est un témoignage particulier, la raison a été obligée souvent d'admettre ce qui lui paraissait d'abord absurde. Je ne suis pas du tout là un expert, mais à cause d'un article à écrire, j'ai dû me pencher un petit peu sur la question de la mécanique quantique, où vraiment, les savants actuels admettent des choses qui sont réellement bizarres pour le commun des mortels, qui paraissent d'une singulière contradiction et voire absurdité pour la pensée courante. Et ils le disent eux-mêmes. Je crois que c'est Niels Bohr, le grand savant de Copenhague, qui, quand il accueillait un visiteur, disait que si quelque chose lui semblait bizarre et incompréhensible, mais pas au suprême degré, c'est qu'il n'avait pas encore vraiment compris. C'est quand ça lui paraissait totalement incompréhensible et impensable que là, il était plus proche de la vérité. Et ça n'a pas, ce n'est pas seulement un trait tout à fait récent. Vous savez que l'on parle, mais depuis les Grecs, des nombres irrationnels. Pour nous, ce n'est pas du tout irrationnel, qui est un nombre, bon, comme pi, 3, 14, 107, etc. Un nombre qui ne se termine pas, qu'après la virgule, vous avez des chiffres et des chiffres qui s'alignent. Et ça ne nous paraît pas irrationnel, mais c'est un nombre comme ça. Mais pour les Grecs, pendant un temps, ça a paru tout à fait irrationnel, absurde. Alors on a appelé ces nombres les nombres irrationnels. C'est un nom qui leur tient encore collé aujourd'hui. Je me rappelle, au moment où je faisais quelques études de maths, que j'ai été ébloui lorsqu'on m'a parlé de i, petit i. Je dis ça pour ceux qui seraient éventuellement matheux ou en train de faire des maths parmi nous. Racine de moins 1. Racine carrée de moins 1, pour quelqu'un qui a suivi l'enseignement des mathématiques ordinaires, un carré est forcément positif, donc moins 1, on ne peut pas avoir une racine carrée. Mais je me rappelle mon éblouissement quand le professeur est arrivé à petit i, racine de moins 1, par le chemin d'une démonstration rigoureuse. Ah là, c'était parfaitement intelligible. Oui, ça tenait. Oui. Donc, la raison... Souvent, elle réagit en disant c'est absurde, mais en fait, elle est obligée après ça d'admettre. Et lorsqu'il s'agit de Dieu et homme, un en une seule personne, Jésus, je crois qu'on peut dire que ce n'est pas tant la raison qui finalement doit s'adapter que notre imagination qui est gênée. Nous n'imaginons pas comment ça peut marcher, si j'ose employer une expression un peu triviale. Comment il peut être Dieu et homme à la fois? Et cela de façon distincte. Nous n'avons aucun moyen de nous dire, mais ça se passait dans son esprit de cette façon, de telle autre. Nous ne réussissons pas à nous représenter, à imaginer, et nous disons à ce moment-là, c'est absurde. Mais c'est notre imagination, en fait. Or, l'imagination, c'est la folle du logis. L'imagination, elle ne peut pas servir de règle en ce qui concerne ce qu'on doit recevoir ou ce qu'on doit écarter. En fait, plus j'y réfléchis, plus je médite sur ces choses depuis quand même pas mal de temps, plus je suis persuadé qu'il n'y a rien de contradictoire, rien même qui doive gêner l'intelligence. Lorsque l'intelligence se met à l'école de toute la Bible, pense à la manière de la Bible, je crois qu'elle peut accueillir la vérité des deux natures divines et humaines de Jésus-Christ unies parfaitement en lui. Bien sûr, elle ne maîtrise pas cela. C'est un mystère, ça reste un mystère. Nous n'avons aucun moyen de démonter la chose. C'est un mystère. Mais je dirais, Ce n'est pas un mystère comme beaucoup de gens imaginent qu'est un mystère, c'est-à-dire comme une borne à laquelle on se cogne, aïe. C'est un mystère comme une fontaine de lumière. C'est comme des cataractes de vérité. Alors, bien sûr, nous sommes tellement surplombés par la majesté de ce mystère. Cette vérité nous éblouit en nous éclairant qu'il n'est pas question de prétendre maîtriser la chose. Lorsque nous accordons des diplômes de maîtrise en théologie, ça ne signifie pas que ceux qui sont maîtres en théologie aient maintenant la possibilité de maîtriser ce qui est en cause, la vérité de Dieu. Non. Nous ne maîtrisons pas le mystère. Mais nous sommes bien heureux sous ce mystère, sous le rayonnement de ce mystère. Et ce que ce mystère nous fait voir, je le dis très brièvement, me semble d'une harmonie et d'une importance extrême. Dieu et homme, est-ce important ? Mais oui, c'est tout à fait décisif. Voilà un Dieu qui s'atteste au-dessus de tout ce que les hommes ont imaginé. Des choses que l'œil n'avait pas vues, l'oreille n'avait pas entendues, qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme. Un Dieu qui se montre libre. Il n'est pas prisonnier de son infini. Il n'est pas prisonnier de son exaltation souveraine. Il est libre, il est capable d'aller encore au-delà et de descendre jusqu'à nous, de s'unir à nous. Un Dieu, donc au-delà, au-dessus de toutes les conceptions de Dieu que les hommes avaient pu élaborer. Un Dieu qui, ainsi, reçoit toute la gloire. Pensez-y, si Jésus n'était pas Dieu, vraiment Dieu, mais alors notre reconnaissance pour notre salut, il y en aurait une part pour Dieu, une part pour Jésus. Cela se partagerait. La gloire à qui reviendrait-elle ? À Jésus ou à Dieu ? Et puis, est-ce que nous connaîtrions vraiment Dieu en lui ? Nous aurions comme une image de Dieu. Mais est-ce que vraiment Dieu ? Or, notre âme d'homme a soif de Dieu lui-même. Parce que Jésus est Dieu, toute la gloire revient à Dieu. C'est la plénitude de la grâce. Nous le connaissons vraiment lui-même. C'est l'accomplissement de l'alliance. Dieu s'allie, c'est-à-dire qu'il se lie. Il s'allie aux hommes. Il demeure parmi les humains. C'est vraiment tellement triste de penser que nos amis juifs, qui ont tout l'Ancien Testament, toute la première partie de la Bible, où Dieu apparaît comme le Dieu qui veut faire alliance avec les hommes, qui veut épouser l'humanité, l'imager dans la Bible, qu'ils ont entre les mains, qui veut résider au milieu de son peuple, refuse de voir qu'en Jésus-Christ, Dieu et homme, c'est cela qui s'accomplit parfaitement. L'union qui est esquissée dans l'Ancien Testament se réalise là, en toute plénitude. Et le sens de la mort de Jésus apparaît. J'ai dit que la mort de Jésus prouvait qu'il était homme. Et oui, pourquoi Dieu s'est fait homme ? Parce qu'il fallait... Il fallait que la dette de notre péché soit payée, que le salaire du péché qui est la mort soit versé. Il le fallait pour que l'humanité puisse échapper à la condamnation qui pesait sur elle. Mais si elle était mise à mort, alors c'était fini. Seul Dieu lui-même, devenant homme, pouvait supporter le poids de cette punition, pouvait liquider tout ce contentieux. Il fallait que ce soit Dieu pour qu'il ait la puissance de nous sauver, mais il fallait qu'il soit homme pour pouvoir mourir à notre place et nous obtenir la satisfaction de toute justice. Vous voyez comment la vérité de Jésus-Christ, Dieu et homme, est vraiment au centre de tout notre évangile. Et la conséquence alors, qui vraiment doit être la conséquence la plus pratique pour chacun de nous, c'est celle que l'Épître aux Colossiens fait ressortir. En lui habite, corporellement, il est homme, mais toute la plénitude de la divinité. Vous avez donc tout pleinement en lui. Une telle plénitude en lui. Mais comment chercher ailleurs ? Quoi que ce soit. Il est Dieu et homme, proche de nous et avec toute la richesse de la communion du Père. Alors, imaginez de s'adresser à quelqu'un d'autre. Imaginez que nos petites bonnes œuvres viendraient ajouter quelque chose. Imaginez que telle doctrine ésotérique pourrait nous apporter quelque chose de précieux. Mais quelle folie, quelle déraison. C'est là qu'est le mauvais absurde. En lui, nous avons tout pleinement, car il est vraiment Dieu, vraiment homme. Amen.
Prions le Seigneur. Une question se pose à chacun de nous. Jésus est-il votre sauveur? Est-il Dieu pour vous, Dieu homme? Et vous l'avez reçu, vous croyez en lui personnellement. Il est votre vérité, votre chemin. Il est surtout votre vie. Quelle occasion merveilleuse de s'ouvrir à cette vie, de s'ouvrir à ce Seigneur et d'accepter cette vérité merveilleuse. Seigneur, nous voulons te prier pour chacun qui est venu ce matin. Nous voulons d'abord t'adorer pour cette vérité, Père. Nous voulons t'exalter pour cette fontaine, pour cette merveilleuse vérité qui nous dépasse et qui trouve sa source en toi. Nous voulons te louer parce que tu es un Dieu trois fois saint, trois et un, et pas dans un sens contradictoire. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que s'il y ait quelqu'un ici ce matin qui ne te connaissent pas, cette personne puisse ouvrir son cœur, sa vie à toi. Et nous qui te connaissons, Seigneur, que tu nous fasses comprendre de nouveau, nous avons tout pleinement en toi. Nous n'avons pas besoin de notre doctrine, nous avons besoin de notre expérience, mais nous avons besoin de marcher en toi, de vivre pour toi, et de te faire confiance constamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter pour terminer seulement la première strophe du cantique 247. Alors 247, torrent d'amour et de grâce.
On chantait la
première et deux, troisième strophe quand même. Un et trois. Vous notez qui a traduit ce chant, c'est M. Robin Saillance, qui est votre arrière-grand-père. Donc, ce chant a été traduit par l'arrière-grand-père de M. Blocher. La foi continue génération après génération. Ta paix, ta joie soit avec nous. Merci pour cette immersion que nous avons eue dans ta parole. Et nous prions pour ceux qui seront immergés dans l'eau pour témoigner de leur foi, qui vont être baptisés cet après-midi, que cela soit une réunion d'évangélisation et d'encouragement pour ceux qui seront baptisés. Merci Seigneur et bénis-nous, pas à cause de ce que nous sommes, mais par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.